Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au dernier exposé de cette journée. Donc, c'est un exposé sur la trajectoire historique de l'hydroélectricité dans les Pyrénées. Donc, on passe à l'usage hydroélectrique, l'usage énergétique. Alors, cette présentation aurait dû vous être faite par Christophe Bounot, qui est chercheur et professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, il m'a prié de l'excuser auprès de l'ensemble des participants. Il ne pouvait pas être présent pour faire son intervention. Et il a donc chargé l'un de ses élèves, qui reste donc en place près de l'ordinateur. Bref, c'est monsieur Steve Agimon qui va effectivement présenter ce travail.
Voilà, effectivement, pour remplacer Christophe Bounot. Alors, on n'est pas dans un monde si éloigné du tourisme. En fait, tourisme et hydroélectricité ont été extrêmement liés. Pour le meilleur, enfin pour le meilleur, c'est à voir, mais en tout cas pour des investissements massifs effectués par certaines compagnies investies dans l'hydroélectricité, comme la compagnie des chemins de fer Nubindi. Et pour le pire, disons, avec les très nombreux conflits d'usage qu'il y a pu y avoir au moment de la mise en place des infrastructures touristiques. Et là, on rejoindrait les deux exposés qu'il y a eu sur la pêche et les réserves halieutiques, puisque un des facteurs majeurs de bouleversement de la faune aquatique dans les Pyrénées, ça a été, et dans les montagnes en général, ça a été cette hydroélectricité et l'électrométallurgie et l'électrochimie. La vallée du Vic de Sceaux, évidemment, en est un témoignage fort. Alors, cette production hydroélectrique, pour commencer par un petit panorama, une sorte de rappel, cette production hydroélectrique, elle débute véritablement dans les années 1880. Donc à ce moment-là, et pour très longtemps en fait, elle est en concurrence avec la production thermique, c'est-à-dire la production au charbon. Production au charbon, de l'électricité au charbon, hein, dont les polarités essentielles sont la région parisienne et le nord de la France. Cette polarisation dans le nord de la France, elle est importante au moment de la Première Guerre mondiale. Bon, ici, évidemment, on est sur les terres, d'un des pionniers de cette hydroélectricité, Aristide Bergès, mais là, vous en savez plus que moi sur ce personnage, inventeur du terme de houille blanche par rapport à la houille de terre, la houille blanche, donc l'eau, et qui introduit en 1882 dans sa papeterie en Isère le courant électrique, et donc un des précurseurs de cet usage industriel de l'électricité. Auparavant, l'électricité, elle sert surtout à s'éclairer. Bon, l'hydroélectricité, à partir de ces années 1880, elle se développe dans deux directions. Les usages publics, donc l'éclairage, et là on a les communes pyrénéennes, Aix par exemple est assez pionnière, Aulus n'a pas beaucoup de retard non plus sur ce point-là. Donc on s'équipe de petites centrales qui peuvent être évidemment en partie des centrales qu'on met dans les scieries communales. On installe une petite turbine qui fournit le courant nécessaire à l'éclairage public. Donc voilà, premier usage, deuxième usage, c'est l'usage industriel. Avec un élément majeur, c'est que jusque dans les années 1910, on maîtrise très mal le transport de force. Et donc, quand on produit de l'électricité avec la force motrice de l'eau, si on veut l'exploiter industriellement, eh bien, il faut installer l'usine sur le lieu de production. Et c'est ce qui va entraîner la polarisation d'un certain nombre d'industries. On connaît la vallée de la Maurienne, on connaît la vallée de l'Isère, et on connaît aussi, donc là pour le territoire du parc, le Vic de Sceaux, qui est un endroit majeur, de Sabarthe jusqu'à Auzatte, lieu majeur de cette hydroélectricité, de cet usage industriel de l'hydroélectricité, en particulier avec la production d'aluminium. Voilà. D'abord par la société Aleph, Froge et Camargue, remplacée ensuite par Péchinet. Pour la polarisation, vraiment un rapide de ces polarités industrielles. Alors ici, on la retrouve plus ou moins sur les réseaux de transport de force. Donc, autre lieu majeur l'industrie de production d'aluminium, Pierrefitte, Luchon-Marignac. Luchon, centre touristique, qui est un centre industriel majeur aussi au XXe siècle. Auzatte, Vic de Sceaux, Tarascon. Alors, premier temps, on va revenir juste sur les rythmes de la croissance hydroélectrique au XXe siècle, enfin jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce sont les travaux de M. Bounot qui s'arrête à la nationalisation de l'électricité en 1946. Puis dans un deuxième temps, on s'intéressera aux entreprises de cette hydroélectricité, avec quelques-unes qui mettent en jeu les capitaux ariégeois et qui sont des sociétés qui ont compté dans le paysage industriel et électrique français. Alors, avant la guerre, disons qu'il y a deux endroits, pour les zones proches, il y a deux zones où on met en place les premiers grands aménagements dans les Pyrénées, les premiers grands aménagements hydroélectriques. Ça va être les Bouillouses, du côté donc des Pyrénées-Orientales, par la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, pour nourrir, pour alimenter en électricité le petit train jaune, là, ce train à voie métrique, de Bourg-Madame à Villefranche-de-Conflans. Donc, premier barrage, hein, on en dit que c'était une zone humide, si je ne me trompe pas, et on en fait un très grand barrage dans les années 1900. L'autre, il y a Ouzat aussi, hein, on met en place des premiers barrages dans les années 1900-1907, et il y a Orlu. Orlu et le barrage de Nagui qui va progressivement être monté, mais dont les premiers aménagements datent de 1911. Donc là, on commence en fait timidement dans les Pyrénées à aménager avant la Première Guerre mondiale. Gavarnie, à un moment, est concernée. On envisage de capter la grande cascade de Gavarnie et une mobilisation de l'opinion publique empêche cet aménagement. La société, en fait, comme souvent et comme on le retrouve jusqu'à aujourd'hui, la société voyant l'affaire être médiatisée, se désengage, fuit, va investir ailleurs. Et ça a souvent marché, ça a longtemps sauvé Cotterêts, par exemple. Alors, les grands aménagements pyrénéens, hein, ils commencent véritablement avec la Première Guerre mondiale. Évidemment, le Nord est pendant l'essentiel du conflit occupé, donc les centres de production thermique sont occupés, et on va dynamiser les Pyrénées et l'industrie pyrénéenne. Ensuite, ce Nord occupé subit les plus grandes dévastations sur le territoire national, et ce qui est favorable au lendemain de la Première Guerre mondiale également à la poursuite de cet équipement pyrénéen. Les Alpes aussi, évidemment, sont équipées, mais ce qu'on voit avec les chiffres de production au cours du XXe siècle, en fait, entre les années 1920 et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on voit que les Pyrénées rattrapent progressivement leur retard sur les Alpes, et que, par exemple, si on isole la région Midi-Pyrénées, la production hydroélectrique en Midi-Pyrénées, elle est de... en 1923, hein, on produit l'équivalent de 50% de la puissance de Rhône-Alpes en Midi-Pyrénées, donc Rhône-Alpes avec les plus grands massifs alpins. En 1941, Midi-Pyrénées atteint 70% de la puissance des Alpes, enfin de Rhône-Alpes en tout cas, et donc ce qui montre un effort considérable de construction de barrages d'équipements hydroélectriques dans les Pyrénées, et ce qui fait qu'un grand nombre de cours d'eau, un grand nombre de cours d'eau pyrénéens, et avec eux leur faune aquatique, hein, sont artificialisés à partir de ce moment-là. L'Ariège, dans ce cadre, loin d'être un espace marginal de l'industrialisation en France et de la modernisation française, en fait, cet Ariège, eh bien, elle fournit une partie du courant de l'énergie qui a été nécessaire à la modernisation de la France. L'Ariège fait figure à la fois, c'est une très ancienne zone industrielle, territoire industriel, et même au cœur de la modernisation, même au cœur de ce qu'on pourrait considérer comme le moment de relégation de l'Ariège, eh bien, l'Ariège est essentiel au mouvement de modernisation industrielle de la France. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on arrive à transporter la force électrique, hein, à partir des années 1920-1930, eh bien, les zones qui vont profiter de cette production hydroélectrique pyrénéenne, ce ne sont plus forcément les fonds de vallée, même si on va garder les entreprises qui y sont, pour quelques années encore, ce sont les villes de Piémont, les mieux raccordées au grand réseau de communication. Et donc ça va être l'essor de Pamiers, Tarbes, Lannemezan, Toulouse. Enfin, en fait, ces villes de Piémont qui vont vraiment profiter de la force qui est produite dans les Pyrénées, et ce qui, dans les vallées, est parfois très mal vécu à ce moment-là. On a l'impression, hein, que les forces sont, qu'on exploite comme une forme de colonisation ces montagnes. Alors, les entreprises, donc, après ce panorama général, des Pyrénées qui sont vraiment importantes dans la production hydroélectrique française, on est avant, évidemment, les centrales nucléaires. Les grandes entreprises, c'est la Compagnie des Chemins de Fer du Midi. Alors, je pense qu'il y a à la suite quelques affiches de cette compagnie. Bon, là, des travaux spectaculaires qui sont menés en montagne, hein, en montagne, dans des conditions terribles. Ce sont des travaux extrêmement meurtriers, où on emploie de préférence une main-d'œuvre immigrée, déracinée, donc beaucoup plus docile, et qui accepte des conditions de travail beaucoup plus dures. Évidemment, le barrage d'Izour, hein, est resté célèbre pour la grande avalanche qu'il y a eu de mémoire en 1936 et qui a fait de très nombreux morts chez les Italiens qui travaillaient là. Voilà, Cirque des Crabioules, mais les montagnes de Saint-Ain, hein, particulièrement pour illustrer ça, les montagnes de Saint-Ain où il y a tout un réseau de canalisations en souterrain. Alors, Compagnie des Chemins de Fer du Midi, en fait, c'est la tête de pont, donc c'est la concessionnaire du réseau du Sud-Ouest. Là, ça doit être la centrale d'Artoust, si je ne me trompe pas, mais... En osso. Bref. Compagnie des chemins de fer du Midi, donc pionnière dans l'introduction de l'électricité et l'introduction à une échelle industrielle de l'électricité dans les Pyrénées. Et ça va être la tête de pont de l'électrification du Sud-Ouest. En fait, elle en a besoin. Alors, pour fournir le courant électrique à son réseau de chemin de fer, c'est une des premières compagnies à électrifier ses lignes de chemin de fer à partir des années 1900. Là, plus tôt, on est en 1897, ici à Cotteray. Et elle va aussi vouloir, en fait, augmenter son volume de transport de matière, transport de produits. Hein. Et pour ça, elle va vouloir développer l'industrie du Sud-Ouest. Et elle voit l'électricité comme un facteur de développement de cette électricité. Et autour de la Compagnie du Midi, on voit des entreprises, pour ne citer qu'une, l'ATECOR par exemple, hein, fait ses premières armes aux côtés de la Compagnie des chemins de fer du Midi pour fournir des matériaux électriques, du matériel roulant. Et voilà. Et chaque entreprise, en fait, bénéficie de cette synergie pour grossir. Et quelques géants naissent à ce moment-là. Dans le Sud-Ouest. Donc, Compagnie des chemins de fer du Midi, absolument essentielle. Sa société hydroélectrique, c'est la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM, qui existe encore aujourd'hui, un filiale d'EDF. Donc, elle a équipé les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, autour du massif du Carlite, et puis les Pyrénées-Atlantiques, autour du massif d'Ossau, et c'était les images qu'on avait auparavant avec ces grands aménagements d'Artoust. Alors, autre société qui a agi en Ariège, plutôt du côté d'Axe-les-Thermes, qui était avec des capitaux toulousains plutôt, c'est la Société Pyrénéenne d'énergie électrique qui a été créée en 1907, qui inaugure donc le premier grand barrage pyrénéen qui est Orlu, enfin deuxième avec les Bouillouses. À ce moment-là, Orlu, c'est la plus haute chute de France, aménagée avant 1914, avec 936 mètres de chute d'eau. Autre grande compagnie, celle-là, elle intéresse particulièrement la région de Saint-Ain, c'est la Compagnie d'électricité industrielle qui a équipé les montagnes de Luchon, en gros entre le lac d'eau, Portillon, Cirque des Crabioules et cette immense chute du Portillon, là, c'est la Compagnie d'électricité industrielle, comme à Saint-Ain, comme l'étang d'Arrain, hein, entre Saint-Ain et Entrasse. C'est une compagnie à la fois hydroélectrique et électrométallurgique et électrochimique. Et donc, voilà, c'est elle aussi qui est à l'origine de l'usine qu'il y avait à Marignac, qui a été ensuite reprise par Péchinet. Son grand moment d'action, hein, cette compagnie d'électricité industrielle, c'est les années 1920-1930. Voilà, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la chute du Portillon, hein, 1400 mètres de haut, c'est aménagée dans les années 1930 avec des travaux gigantesques, finis sous Vichy. C'est la plus haute chute d'Europe à ce moment-là, 1400 mètres de haut, et c'est aujourd'hui encore la plus haute chute de France. Plus haute chute, hein, voilà, aménagée en conduite forcée. Donc évidemment, un bouleversement majeur des paysages, ce qui a engendré de très forts conflits à ce moment-là avec les intérêts touristiques établis à Luchon. Dans cette compagnie d'électricité industrielle, pour la situer, on est sur des capitaux absolument gigantesques pour l'époque. Hein. On retrouve alors des intérêts proches de la Compagnie du Midi. En fait, toutes les entreprises sont plus ou moins liées. On retrouve UBS, hein, de Suisse, les banques suisses qui se sont en partie spécialisées dans l'hydroélectricité viennent ici investir dans les Pyrénées. Voilà, donc des grandes banques suisses, la plupart des banques suisses en fait, la Barclays, le Prince de Monaco, l'American Express, enfin voilà, en fait on a autour de ces concessions, et donc y compris autour de Saint-Ain, une mobilisation capitalistique mondiale, internationale qui se fait. Autre entreprise, et qui est celle-là encore plus, enfin disons vraiment d'essence ariégeoise, elle naît pourtant à Luchon, c'est la Luchonnaise d'électricité, qui devient ensuite Électricité et Gaz des Pyrénées. Elle est fondée en 1902, elle devient Électricité et Gaz des Pyrénées en 1925. Elle est en fait à l'origine, bon, elle doit équiper à l'origine le lac d'eau, elle constate ça ensuite à la Compagnie d'électricité industrielle, passons. Mais on trouve à la tête Lacroix, la famille Lacroix de Mazères, donc pas très loin d'ici, le banquier apaméen François Clarac qui est au cœur de cette entreprise, et puis Job, qui vient à partir de 1925 s'imposer dans cette entreprise. Et donc elle va équiper particulièrement l'Ariège et particulièrement les cours d'eau. Et c'est par exemple avec elle qu'on voit naître, hein, la centrale hydroélectrique de La Courte, pas très loin d'ici, voilà, qui équipe donc voilà, ce type. On n'est pas sur des barrages de haute montagne, on est donc plutôt sur les aménagements sur les cours d'eau. Et avec des capitaux locaux, et cette société sera ensuite nationalisée, hein, avec EDF. Bon, je le répète, mais bon, voilà, ces entreprises sont interconnectées entre elles, elles s'allient, et ces entreprises là, actives dans les Pyrénées, hein, elles ont une innovation majeure à l'échelle mondiale, c'est qu'elles s'allient dès 1922 entre elles, les capitaux s'interconnectent, et elles programment ensemble les aménagements de la montagne, et pour rationaliser l'aménagement de la montagne, donc dès 1922, au sein de l'Union des producteurs d'électricité des Pyrénées-Occidentales, ce qui leur donne une puissance énorme Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, chacun des aménagements quasiment a donné lieu à des oppositions locales. Alors, souvent pour des raisons touristiques, parfois aussi avec les pêcheurs, mais qui sont liés, parfois liés au tourisme. Mais cette puissance et ces réseaux, les réseaux qu'ont eu ces sociétés jusqu'au sommet de l'État, hein, leur a permis d'imposer ces aménagements dans la montagne, dans un contexte où l'impératif de modernisation pèse très fort, et beaucoup plus fort que les impératifs de protection du paysage. Voilà, alors, je pense que j'ai à peu près fini. Je voulais juste, voilà, sur le gouffre Martel et la zone de la... Donc, au-dessus de Saint-Ain, hein, ce gouffre Martel, l'exploration que fait Norbert Casteret, elle est liée à la compagnie d'électricité industrielle, hein, qui veut à ce moment-là avoir une idée précise du réseau hydrographique souterrain dans cette région pour en parfaire l'équipement. Et donc, Norbert Casteret explore ce gouffre Martel en partie pour ces raisons industrielles. C'était une petite parenthèse. Voilà. Et lorsque naît EDF, pour conclure, les grands aménagements pyrénéens sont pour beaucoup faits, quasiment terminés. EDF va mener une dernière grande campagne dans un espace qui était pourtant jusque-là protégé. C'est autour du Néouviel. Néouviel et la vallée de Gèdre, avec, pour donner lieu à la naissance de Pranières, hein, en 1955, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc dernier grand moment d'aménagement majeur avec le barrage du Cap de Long qui signe un petit peu à ce moment-là, au cœur de ces Trente Glorieuses, le triomphe des ingénieurs sur les naturalistes qui déplorent ces aménagements, les naturalistes et les protecteurs de l'environnement et les intérêts touristiques qui sont quelque peu réduits au silence à ce moment-là. Dernier grand barrage pyrénéen, je m'arrête là, c'est sous le SEM qui a provoqué de grands remous, si je ne me trompe pas, lorsqu'il a été aménagé. Et le site du Garbet dont on a parlé hier est encore plus ou moins ciblé par des intérêts hydroélectriques. Voilà, je vous remercie, c'était un petit peu décousu à la fin.